Galenès.
Galenès.
Et des questions recevront une réponse.
Galenès.
C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. Le convecteur temporel.
Galenès.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur les ondes de Transistor pour la première édition de Galenès, l'émission scientifique qui vous veut du bien. Nous sommes trois au micro. Thomas qui est en informatique, Marianne qui est en biologie, tout comme moi.
Bonjour Louise.
Bonjour.
La semaine dernière a eu lieu la 20e édition du prix Loebner, qui récompense l'ordinateur le plus humain. C'est pour nous l'occasion d'aborder la question que s'est posée Alan Turing il y a 60 ans. Les ordinateurs peuvent-ils penser ?
Alors vous vous demandez peut-être qui était Alan Turing. C'était un brillant mathématicien britannique de la première moitié du XXe siècle qui a ouvert la voie à l'informatique moderne, notamment grâce à la machine abstraite qui porte son nom, la machine de Turing. Dans un contexte où l'ordinateur le plus puissant s'étalait sur 72 mètres carrés, pesait 30 tonnes et faisait 10 000 fois moins d'opérations à la seconde que les smartphones actuels, Turing publie un article dans lequel il se pose la question de savoir si un jour les ordinateurs pourront penser. Et c'est en visionnaire qu'il propose un test pour évaluer l'intelligence des machines.
C'est-à-dire qu'il s'affranchit des considérations philosophiques en proposant une expérience concrète.
Oui, tout à fait. En fait, il définit un test dans lequel un juge parle avec un interlocuteur inconnu qui peut être soit un humain, soit un ordinateur. Si ce juge est incapable à plusieurs reprises de distinguer l'homme de l'ordinateur, alors Turing considère que l'ordinateur pense. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le test de Turing. Mais un ordinateur a-t-il déjà réussi le test ?
Eh bien justement, pas vraiment. Et même si au fil des années, les programmes se sont affinés et fournissent une prestation de plus en plus proche d'une conversation humaine, la récompense de 100 000 dollars remise à l'informaticien qui créerait un tel programme n'a encore jamais été décernée. Ce prix est mis en jeu depuis 20 ans par la fondation Loebner lors de la compétition annuelle qui soumet au test de Turing les meilleurs programmes existants. Et pour vous laisser découvrir à quoi peut ressembler une conversation avec un ordinateur, voici un dialogue qui a réellement eu lieu.
La journée a été longue. J'aimerais bien m'amuser un peu à présent. Et il ne fait pas très beau aujourd'hui. Vous connaîtriez une blague qui puisse introduire un rayon de soleil ?
Tout le monde parle du temps qu'il fait. Mais personne ne semble vouloir agir. Pourquoi me dire que vous aimeriez bien vous amuser un peu ?
Quelle est la définition d'une conversation décousue ?
Vous ne vous êtes pas dit. J'imagine qu'une conversation décousue, c'est comme les déplacements du cavalier aux échecs, un genre de zigzag qui ne suit aucune ligne particulière.
J'aime l'image des cavaliers qui se déplacent au hasard sur l'échiquier. Est-ce que cela signifie qu'une conversation décousue ne repose sur aucune pensée ?
J'aurais juré que vous veniez de dire. Comment définissez-vous le mot décousu ? Vous êtes toujours aussi dingue. Pourquoi éprouvez-vous le besoin de me dire que vous aimez l'image des cavaliers qui se déplacent au hasard sur l'échiquier ?
Alors il faut savoir que cette conversation, qui s'est déroulée lors de la première compétition Loebner en 1991, a presque failli tromper le juge que je cite « J'ai vraiment cru que l'ordinateur était humain parce qu'il était drôle et imprévisible, d'une manière normale. » Mais alors, qu'est-ce que cette conversation avait de si humaine et quelles sont les stratégies à adopter par l'ordinateur pour se faire passer pour un humain ?
Et inversement, le juge doit trouver quelles sont les questions auxquelles seul un humain pourrait répondre. Dans cet exemple, l'ordinateur est justement entré dans le jeu du juge qui essayait de le piéger en lui demandant une blague. L'humour est en effet une des caractéristiques humaines difficiles à intégrer dans un programme informatique.
Oui, effectivement, il y a l'humour, mais il y a aussi les émotions, la joie, la contrariété. Dans cette conversation, l'ordinateur essaye visiblement de titiller le juge, notamment en lui disant « Pourquoi cette question ? Vous vouliez faire le malin ?» ou encore « Vous êtes dingue. »
Et même, puisque l'erreur est humaine, le programme informatique introduit volontairement des fautes de frappe, des erreurs de calcul, ou bien encore fait semblant de calculer lentement.
Mais il est possible qu'un humain nous surprenne avec sa mémoire quasi infaillible. En effet, il est arrivé qu'une spécialiste de Shakespeare soit prise pour un ordinateur car, justement, le juge a estimé qu'il était impossible qu'un humain puisse en savoir autant sur un sujet.
Ce sont juste des questions, Léon. C'est un test fait pour provoquer une réponse émotionnelle. Est-ce qu'on peut continuer ?
Même si les performances s'améliorent, les programmes sont encore loin d'imiter une conversation, et encore moins la pensée humaine. Cependant, certains partisans de l'intelligence artificielle soutiennent que les ordinateurs penseront un jour comme des humains. Par exemple, l'informaticien Ray Kurzweil a prédit qu'en 2029, le test de Turing serait remporté par un ordinateur. Il s'imagine que d'ici là, nous disposerons de tous les modèles permettant de simuler les différentes régions du cerveau et de les reproduire dans une machine.
Et un argument important avancé par ceux qui fantasment sur une machine intelligente à forme humaine est le fait que les ordinateurs seraient entrés dans un processus d'évolution semblable à celui auquel sont soumis les êtres vivants, à la différence essentielle que cette évolution est orientée par les informaticiens et est donc considérablement accélérée. Ils voient ainsi émerger des ordinateurs avec des propriétés similaires aux capacités cognitives que l'homme a acquis au cours de l'évolution, telles que la mémoire, le langage, le raisonnement, etc.
Donc si on envisage qu'un ordinateur ait de telles aptitudes sur le modèle de l'homme, il faut avant tout comprendre comment elles s'opèrent chez l'humain. Les bases neurologiques de la cognition sont de mieux en mieux identifiées et on commence à entrevoir comment nous sommes capables de lire, d'interagir efficacement avec autrui, ou encore quels sont les neurones sollicités pour qu'à cet instant vous soyez concentré à m'entendre et à me comprendre. Et puisque Turing voulait tester l'intelligence des ordinateurs par le langage, voyons un peu comment fonctionne la tâche très complexe qu'est la parole. Deux aires sont en charge de ses performances. L'une assure la production des mots, et l'autre, totalement distincte de la première, assure leur compréhension. Il faut savoir que c'est aussi à travers le langage qu'ont pu émerger l'écriture et la lecture, autres fonctions très évoluées. Même si aujourd'hui lire vous apparaît relativement simple, sachez que cet acte fait appel à des capacités cognitives très complexes. Il s'agit dans un premier temps d'associer des symboles, que sont les lettres, à des sons, puis ces sons au langage et au sens donné par le langage. Petit à petit, l'aire visuelle va directement associer les lettres avec le sens, et c'est ce qui s'est passé lorsque, en CE1, vous n'avez plus besoin de lire à voix haute pour comprendre ce que vous dites.
Alors toutes ces performances cognitives reposent sur l'apprentissage et sur le fait que votre cerveau pouvait a priori se modifier pour les intégrer. On ne naît pas avec des aptitudes, mais avec la capacité cérébrale de les acquérir. Ainsi, un ordinateur intelligent possédant une organisation semblable au cerveau humain doit avant tout avoir cette plasticité et cette faculté d'apprentissage. Il doit être programmé non pas pour parler, mais pour apprendre à parler.
Alors un grand défi de l'apprentissage est de mettre en place une mémoire qui soit à la fois sélective et pertinente. En effet, chez l'homme, la mise en mémoire comprend une phase de consolidation, souvent pendant la nuit, qui effectue un tri inconscient des informations qui nous sont arrivées, et donc la plus grande partie est supprimée. Cette phase est indispensable et permet de graver efficacement l'information retenue dans notre mémoire.
Ils ont été conçus pour imiter les êtres humains en tout point.
Si on envisage de construire un ordinateur qui fonctionne comme la cognition humaine, il doit apprendre de son environnement tout comme nous le faisons. Il va donc devoir stocker des informations lui parvenant de son environnement et les mettre en mémoire. Or, l'ordinateur ne peut pas avoir une capacité de stockage infinie. Il n'existe pas de support capable de stocker l'intégralité du flux de données qu'il recevrait quotidiennement. Pour se faire une idée, il faut presque 2 gigaoctets pour stocker un film de 2 heures, et il est donc irréaliste de conserver ne serait-ce que le film de la semaine écoulée. Il faudra donc que l'ordinateur soit capable d'assurer le même tri que nous faisons inconsciemment.
Remarquons toutefois que la pertinence de ce qui est gardé en mémoire chez l'homme nous réserve parfois des surprises. Ne vous est-il jamais arrivé, par exemple, de vous rendre compte que vous vous souvenez de la robe verte que portait votre prof d'histoire lorsqu'elle a fait le cours sur la Troisième République, mais impossible de vous souvenir des dates exactes de la Commune. Visiblement, votre mémoire n'a alors pas consolidé les bonnes informations. Donc, la sélection totalement inconsciente des données mises en mémoire chez l'homme n'est pas toujours si pertinente.
On envisage donc là une machine suffisamment intelligente pour apprendre de son environnement et développer des capacités semblables à la pensée humaine. Mais est-ce que l'ordinateur, qui n'a a priori pas de conscience du vécu et de l'expérience, peut apprendre en ayant une mémoire sélective et pertinente? Est-ce que la différence fondamentale qui persiste entre la machine et l'homme n'est pas finalement la conscience? Est-il possible de voir émerger une forme de conscience chez les machines comme étape ultime dans le développement de l'intelligence artificielle? Cette conscience permettrait à l'ordinateur de faire la distinction entre lui-même et son environnement. Ces aptitudes du cerveau humain n'ont pour le moment pas de support neurologique connu qui nous permettrait de les reproduire dans un programme informatique. Le mystère de la conscience reste donc complet pour les neurobiologistes et ils s'en remettent aux philosophes.
De
Nous ne sommes pas des robots, Sébastien, mais des êtres vivants.
Je pense, Sébastien. Donc je suis.
Après avoir tenté de définir les contours d'un ordinateur capable de penser, avec toutes les réserves que nous y avons mises, une question se pose. Quel statut donner à un programme capable de se faire passer pour un être humain ? Imaginez un instant que l'on construise une machine qui ait des circuits imprimés à la place des connexions nerveuses, mais serait semblable à l'homme en tout point. Une peau, un visage, des membres. Une machine non seulement capable d'assurer une conversation, mais qui exprimerait aussi des émotions.
Leurs créateurs reconnaissent qu'après quelques années, ils peuvent développer eux-mêmes des réactions émotionnelles. Haine, amour, peur, colère, envie. Alors ils ont prévu un système de sécurité.
Et c'est quoi ?
4 ans de vie au plus.
C'est la solution trouvée par la Tyrell Corporation dans le film Blade Runner, dont nous avons tiré tous les extraits passés au cours de cette émission. Ce film, à la suite du livre « Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques » de Philip K. Dick, dont il est tiré, pose plusieurs questions vis-à-vis de telles machines. Quelle éthique peut-on envisager pour ces créatures ? Auraient-elles des droits similaires aux nôtres ? Et est-ce que nous pourrons librement décider de les débrancher ? Je vous laisse méditer là-dessus, je vous souhaite à tous une excellente semaine et rendez-vous à la prochaine édition de E égale NS.